RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini. C'est sans doute l'animal mythologique le plus célèbre de tous, le monstre du Loch Ness. Un reptile aquatique de grande taille, vu par quelques centaines de témoins directs depuis les années 30. Et la science a bien entendu tenté d'apporter ses éclairages et ses outils pour identifier cet animal échappé de l'époque des dinosaures. L'agente Leslie revient sur la mystification de celui qu'on appelle Nessie, le monstre du Loch Ness.
D'abord, je dois absolument vous dire une chose importante. Le monstre du Loch Ness existe. Et ceci, même si, on va le voir, les preuves de son existence sont difficiles à établir de manière solide.
Avec votre bon esprit scientifique, vous allez sans doute nous dire que l'absence de preuves n'est pas la preuve de l'absence, c'est ça ?
Exactement, il est important d'avoir un esprit rigoureux, vous savez.
Oui, alors en revanche, chère Leslie, moi qui ai la conviction, parce que vous l'avez dit, que vous êtes une agente écossaise, je vous soupçonne donc d'être un peu biaisé dans cette affaire. Mais bon, quoi qu'il en soit, on vous fait confiance et on vous écoute.
Bon. Je ne vais pas nier mes origines. Je ne veux pas nier mes origines. Mais je veux tout de même tenter de démystifier un peu cette fabuleuse histoire. D'ailleurs, c'est vrai. Il existe des légendes celtiques qui remontent à la nuit des temps et qui nous parlent de Water Horse, un cheval maritime, si vous voulez. Disons que Nessie est le plus moderne de ces chevaux d'eau. Et puis, il y a aussi eu un épisode chrétien. En 565, il est écrit que le moine irlandais Columba séjournait sur les rives de Loch Ness avec ses disciples. Un jury part tous à la nage pour ramener une barque échouée, quand tout d'un coup, un épouvantable monstre marin se précipite sur eux avec, je cite, « des grands rugissements et la gueule ouverte ». Columba fait le signe de croix et invoque la puissance de Dieu. Le monstre disparaît et cet épisode est ensuite connu comme un des miracles de Saint Columba.
Bon, donc Nessie, si je vous comprends bien, n'est pas tout jeune, hein, parce que ça remonte. Pourtant, il ne connaîtra la célébrité que dans les années 30.
Oui, 1933 pour être précis. Le 14 avril, le couple Mackay roule entre Inverness et le village de Drumnadrochit. Ce couple, soit dit en passant, gère un hôtel dans ce très joli village, tout près du château de Urquhart. Mais passons. Ils roulent paisiblement sur la nouvelle route côtière qui vient d'être achevée. Lorsqu'ils aperçoivent un monstre ressemblant à une baleine s'ébrouer pendant une minute avant de replonger. Ils racontent leur mésaventure à leur ami Alec Campbell, le jeune garde-pêche, qui est aussi, par hasard, journaliste amateur. Il publie donc l'anecdote dans un journal local, The Inverness Courier, mais la presse londonienne s'est saisie de l'affaire et toute l'Angleterre en parle.
Oui, ce qui n'est sans doute pas une mauvaise affaire pour notre jeune couple d'hôteliers, vous l'avez dit.
Oui, true. Effectivement, les Highlands, région assez peu touristique jusqu'alors, vont attirer beaucoup de monde, en particulier les rives de Loch Ness, car tout le monde veut voir Nessie de ses yeux en cet été 1933. Un été caniculaire, où Nessie vient divertir le Royaume-Uni qui en a bien besoin.
Pourquoi le Royaume-Uni a besoin de se divertir?
Mais c'est une période de crise économique. Et puis, au niveau international, l'actualité n'est pas rose. Je vous rappelle qu'en janvier 1933, un certain Adolf Hitler devient chancelier en Allemagne. Et ce monstre-là, personne ne conteste son existence. Donc, oui, Nessie tombe à pic.
Donc, été 1933, les touristes affluent sur les rives du Loch Ness. Et alors, est-ce qu'ils vont le voir, ce monstre ?
Eh bien, pas tous, évidemment. Mais il y aura, en cette année 1903, une vingtaine de témoins oculaires. Un journaliste venu de Londres pour enquêter écrira que, dans leur écrasante majorité, ces témoins sont des gens sérieux et dignes de confiance.
Donc ça veut dire que ce ne sont pas des spécialistes de la distillation de l'orge maltais, c'est ça ?
Ah ouais, eh oh, si vous sous-entendez que les Écossais sont tous des alcooliques, gare à vous, hein. Mais non, précisément, ces témoins semblent avoir les pieds sur terre et ne pas passer leur journée un verre de whisky à la main. Mais dans ces débuts des années 30, la photographie est à la mode et une première photo du monstre sera prise le 12 novembre 1933. Franchement, il est flou et pas très convaincant. Ça pourrait être un gros chien qui joue dans l'eau avec un bâton, oui. mais voilà. Mais au printemps 1934, sera publiée la plus célèbre photo de Nessie. On y voit clairement le long cou de l'animal et sa petite tête émergeant de l'eau. Elle évoque vraiment le plésiosaure, sorte de dinosaure marin au long cou. Notre fameux water horse. Cette photo, qui est l'œuvre d'un médecin londonien, va faire le tour du monde et les milieux zoologiques sont perplexes. Et si, après tout, c'était vrai? Et si, comme pour le chevrotin aquatique, le hippopotame nain ou encore le okapi, Nessie était simplement une espèce rare et terriblement discrète qui nous avait échappé jusque-là?
Selon les biologistes, pour qu'une espèce se maintienne, par exemple dans un lac, il faut un minimum de 50 à 100 individus. Donc, il n'y aurait en aucun cas un Nessie, mais bien une colonie de monstres du Loch Ness. Cela étant dit, après la Deuxième Guerre mondiale, l'intérêt pour cet animal ressurgit. Et ceci pour deux raisons. D'abord, en 1955, la cryptozoologie, soit l'étude des animaux cachés, devient un vrai sujet scientifique avec la publication du livre « Sur la piste des bêtes ignorées » du zoologiste belge Bernard Hoevelmans. Et puis, la science évolue. Du coup, les expéditions scientifiques vont se succéder pour tenter d'avoir la preuve de l'existence de Nessie et sa famille. La technique qui sera privilégiée est celle du sonar, un dispositif qui utilise les propriétés particulières de la propagation du son dans l'eau. C'est un système assez proche de l'écholocalisation de la chauve-souris.
Juste un mot, si vous le permettez, sur le sonar, ce système de détection d'objets sous-marins. On l'oublie souvent, mais c'est un Genevois qui fut, en 1822, le précurseur de cette invention. Jean-Daniel Colladon utilisait une sorte de cloche pour calculer la vitesse de son sous l'eau. Et ses expériences ont été faites loin de tout monstre marin dans le lac Léman. Bon. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de toutes les expéditions plus ou moins scientifiques qui seront déployées sur ce loch qui, disons-le au passage, est particulièrement profond. Jusqu'à 270 mètres pour une largeur maximale de 1,5 km. Vous voyez qu'il y a de quoi chercher. Les premières recherches au sonar, en 1954, oui, ne donnaient rien. En 1962, le Loch Ness Investigation Bureau, le bureau d'investigation de Loch Ness, est créé par Sir Peter Scott, un naturaliste qui fut l'un des fondateurs de WWF. En 1972, les appareils mis en place par ce bureau obtiennent une photo sous-marine curieuse, une sorte de nageoire losange.
Nageoire losange, donc un peu une nageoire de plésiosaure, ce gros animal marin préhistorique dont vous nous parliez, hein, c'est ça?
Ouais, voilà, bon, mais j'ai revu ces photos et il y a un gros souci. On n'a aucune référence d'échelle. Ça pourrait aussi être une sorte de feuille d'algue, en fait.
Ah oui, d'accord.
Mais peu importe. Ce cliché fait rêver différents personnages, dont Robert Rhines, un avocat, inventeur et musicien de Boston, qui va passer plus de 25 ans à traquer le monstre. D'ailleurs, Sir Peter Scott et Robert Rhines vont, avec quelques photos discutables, donner un nom binominal au monstre.
Un nom binominal, c'est ce qu'on fait pour les espèces à tester, hein, comme, je ne sais pas, par exemple, Canis lupus pour le chien, c'est ça?
Oui, exactement. Nessie est désormais un Nessiteras rhomboterix.
Nessiteras rhomboterix, et qu'est-ce que ça signifie, ça?
Ah, la merveille de Ness avec une nageoire en diamant.
La merveille de Ness avec une nageoire en diamant, c'est quand même assez merveilleux.
Absolument. Rappelons que là, nous sommes dans les années 70. La fantaisie n'est jamais très loin. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique que les 70s furent les années les plus folles dans la recherche de Nessie. En 1976, il y avait deux équipes de recherche sur le Loch. Les expéditions étaient financées par des médias, le New York Times et le National Geographic, qui évidemment espéraient avoir la première image du monstre. Le matériel déployé est phénoménal. Sonar, appareil photo automatique, caméra et autre chose. En cet été 76, l'équipe financée par le National Geographic fait une première étude complète des eaux de lac. On scanne tout le lac et on obtient effectivement des images étonnantes.
Des images étonnantes, alors de quel type?
Ah bien, les images très claires et assez réussies de la faune du lac. Par exemple, les saumons. Ou les ombres chevaliers.
Ah oui, ce genre de faune-là.
Exactement, malheureusement, oui. Et en juin 1977, l'équipe publie donc une première étude scientifique sérieuse, relue par des pairs. Mm-hmm. Et cette étude, disons-le, met en doute l'existence de Nessie. Et ça contrarie beaucoup Robert Rhines, qui va développer une nouvelle technologie en entraînant des dauphins à nager avec des caméras, des projecteurs et un équipement hyper sophistiqué.
D'accord, ça paraît assez farfelu. Mm-hmm. Les dauphins, soit dit en passant, ce ne sont pas des animaux d'eau douce.
Ah mais oui, on les entraîne en Floride, puis on construit un bassin d'eau salée pour qu'ils n'aient que quelques heures à passer en eau douce tous les jours.
Dis donc, ça fait quand même pas mal de bazar et de frais pour une opération qui semble, disons, hasardeuse.
Oui, mais Rhines compte sur le flair des dauphins et leur côté joueur. Il y croit dur comme fer.
Mm-hmm. Et alors, est-ce qu'il a raison d'y croire comme ça?
Non. En tout cas, disons que ça ne marche pas. Mais Robert Rhines n'a pas lâché l'affaire et d'autres même le rejoindront. Dans les années 80, c'est le naturaliste Adrian Shine et sa longue barbe qui vont monter une opération de grande envergure, l'opération Deep Scan.
Deep Scan, donc balayage profond, c'est ça?
Oui. Avec 24 bateaux alignés sur toute la largeur du lac et une lente traversée. Une lente auscultation avec des sonars ultra perfectionnés, un balayage à aller et un autre au retour. Le résultat est pauvre, mais il y a tout de même trois échos étranges à 200 mètres de profondeur, non loin du château d'Urquhart.
Des échos étranges, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Des objets plus lents qu'un requin, mais plus petits qu'une baleine. Voilà ce qu'en dit Adrian Shine.
finalement, est-ce qu'on peut avoir une réponse définitive à la question de l'existence ou non de Nessie?
Mais quel manque de poésie! Pourquoi est-ce que vous voulez une réponse définitive? Le pire, c'est que vous n'êtes pas le seul. Mais avant d'en venir à une étude très récente qui réponde assez définitivement, comme vous dites, laissez-moi vous dire un mot d'une expédition que j'aime bien. L'expédition Ground Truth.
Ground Truth, donc Ground la vérité truth. Du sol. C'est assez beau comme titre. Une opération qui, donc, on l'imagine, a sondé le fond du Loch Ness.
Oui. En 2016, avec un robot sous-marin bien équipé, vous pouvez l'imaginer, et voilà qu'à 180 mètres de profondeur, le robot prend des images incroyables. Un monstre de 9 mètres de long, avec son fameux long cou caractéristique, il semble couché, immobile au fond du lac. Mais c'est vraiment Nessie, le monstre tel qu'on l'imagine.
Et pourtant, à votre ton, je sens qu'il y a anguille sous roche.
Ouais, vous avez bien choisi votre expression. En fait, après avoir fait circuler cette image totalement incroyable parmi les spécialistes de Nessie, on s'est rapidement aperçu que si ce monstre ressemblait tellement à celui qu'on imaginait, c'est qu'il avait été construit pour un tournage en 1970, en l'occurrence, le film de Billy Wilder, titré « La vie privée de Sherlock Holmes ». À cette époque, on ne s'ennuyait pas trop avec les déchets. La maquette a été coulée à la fin du tournage. C'est donc cette maquette qui a été détectée par Operation Ground Truth.
Mais alors, cette étude qui apporte une réponse définitive.
Ouais, ça, c'est ce qu'on appelle le progrès de la science. En 2019, un scientifique néo-zélandais, Neil Gemmell, est venu sur le Loch faire ce qu'on appelle de l'environmental DNA ou EDNA.
Ok, l'ADN environnemental, c'est-à-dire prélever des échantillons d'eau et analyser tous les restes d'ADN présents dans l'eau, c'est ça l'idée, hein?
Oui, exactement. Tous les organismes libèrent en permanence de l'ADN dans le milieu environnant, sous forme de peau ou de d'éjection, par exemple. L'idée a germé depuis peu d'utiliser cet ADN, dit environnemental, pour déterminer les différentes espèces présentes.
Et donc, alors vous l'avez appelé Neil Gemmell, c'est ça?
Oui.
Il a étudié l'eau du Loch Ness?
Exactement. Plus de 200 échantillons d'eau pour une analyse d'environ 500 millions de séquences d'ADN. Des séquences qui lui ont permis d'identifier 3000 espèces différentes.
3000 espèces différentes, 3000, mais ouais. Pas de monstres, j'imagine. Mais en fait, personne ne connaît l'ADN du monstre, donc peut-être qu'il ne l'a juste pas reconnu.
Malheureusement, il n'y a même pas une séquence d'ADN étrange. En fait, une séquence inconnue aurait été mise en avant par les logiciels qui analysent ces fragments d'ADN, mais rien. Pas de traces de plésiosaure, ni de poisson-chat géant, ou même d'esturgeon. Ces deux espèces de poissons ayant parfois été évoquées. Néanmoins, Neil Gemmell a trouvé de nombreuses traces d'anguilles et, dit-il, les anguilles peuvent parfois être grandes. Bon, en Europe en général, elles ne dépassent pas 1,50 m, mais ne sait-on jamais. Et puis, d'apparence, l'anguille est bien une sorte de serpent de mer.
Donc, pour ce Neil Gemmell, Nessie est une grosse anguille, qu'elle soit sous roche ou pas.
C'est une possibilité. Mais Neil Gemmell est un scientifique rigoureux et il précise dans son étude qu'une absence de preuves n'est pas une preuve d'absence.
Tiens donc, comme vous, hein. Vous êtes tous très très rigoureux dans votre démarche scientifique. Eh bien, moi j'ai fait une petite recherche de mon côté, j'ai trouvé un chiffre tout de même que je vais vous donner, c'est 60 millions de livres sterling, et ça c'est le montant estimé des recettes annuelles de Nessie pour le tourisme écossais. Bon, mais alors sérieusement, des centaines de témoins oculaires l'ont vu dans les années 30, vous l'avez mentionné, et il y a également eu des photos. Alors comment expliquer tout ça ?
Ouais, bon, les photos ont toutes été déclarées fausses. Pour la plus célèbre entre elles, celle du médecin londonien en 1934, c'est finalement sur son lit de mort qu'il a admis que c'était un canular. Maintenant, pour ses multiples visions dans les années 30, je vous les ai dit au début de cette discussion qu'on venait d'ouvrir une belle route côtière. Et cette route pourrait être une partie de l'explication. Car, d'une part, elle offrait les rives du Loch Ness à beaucoup plus de regards qu'avant. Et d'autre part, il a fallu abattre beaucoup d'arbres pour faire la route. Et à l'époque, on ne s'embêtait pas trop avec les arbres morts. On les a sans doute jetés beaucoup dans le Loch.
Ah oui, donc un tronc d'arbre mort qui flotte dans un lac, ça ressemble à un monstre marin.
Mais pas pour vous qui n'êtes pas un poète. Mais en Écosse, par un matin brumeux, avec une belle lumière, ben oui. Et puis là-bas, on sait depuis toujours que les monstres marins existent. Et on a envie d'y croire, alors. Vous savez ce qu'on dit?
Oui, je sais ce qu'on dit parce qu'il me semble vous l'avoir déjà entendu dire quelquefois. Il est facile de faire croire l'impossible à celui qui a envie d'y croire.
Exactement.
Bon, bien, je vais peut-être aller m'intéresser un peu à la poésie écossaise, moi.
Excellente idée.
Cet épisode de Mystifica Science a été imaginé et écrit par Adrien Zerbini. Réalisation, Rodolphe Beauchaud. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur les différentes plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Play RTS et Google Podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, on vous conseille d'écouter celui qui parle de la civilisation lunaire, ou quand des astronomes réputés étaient persuadés de l'existence d'une civilisation vivant sur la Lune.